Le lundi soir sur Fusion. Installé dans le grand canapé noir du studio Georges Debs, Ignace en toute intimité vous fait découvrir son invité pour un moment privé en tête à tête. Tous les lundis soirs de 21h à 23h. Salon privé, une émission de la nuit sur Fusion.
Bonsoir. Vous êtes sur Fusion dans le salon privé jusqu'à 23h. Nous ouvrons ce soir les portes du salon à M. Samuel Tavernier, homme politique bien connu des franciscains, surtout.
Salon privé a déjà reçu Mme Karine Mousseau, candidate déclarée à la mairie du François, et M. Maurice Antiste, sénateur et ancien maire, président du MPF, formation politique franciscaine majoritaire depuis 25 ans. Notre invité ce soir n'est autre que l'opposant historique à la majorité MPF, M. Samuel Tavernier. M. Tavernier nous dira tout de lui ce soir. Il nous dira sa vision de la Martinique dont il rêve et bien sûr celle du François qu'il ambitionne d'administrer.
Samuel Tavernier, bonsoir.
Bonsoir Ignace et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Fusion.
Samuel Tavernier, bonsoir donc et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le leader, entre autres, d'initiatives franciscaines, mais vous êtes aussi un passionné de sport, on va en parler tout à l'heure. Cette passion, j'en suis sûr, ne vous a jamais quitté, pas vrai ?
C'est clair. Et je suis malheureux de ne pas pouvoir en faire plus souvent.
Vous n'en pratiquez pas ?
Très rarement.
Et quand vous pratiquiez, vous faisiez quoi ?
Alors du handball et du football, principalement.
Au club franciscain ?
Au club franciscain, principalement, naturellement, le club de mon cœur.
Vous en êtes donc fervent supporter ?
Ah oui, fervent supporter, fervent défenseur, et je trouve effectivement que, sans entamer vraiment le débat dès maintenant, mais que voilà un club qui a un palmarès éloquent, et malgré les infrastructures et les conditions difficiles d'exercice de leur discipline.
Dites-moi, la politique sportive de l'équipe en place depuis 20 ans, et même un peu plus, ne vous satisfait pas alors ?
Visiblement non.
Si j'en crois à vos propos.
Visiblement non. Même si, comme dans toutes les municipalités, des choses sont faites. Et vous trouvez en face de vous quelqu'un qui connaît bien ce domaine. Il est vrai qu'il y a de l'inachevé et que notre commune mérite mieux.
Et vous avez à cœur d'achever l'inachevé ?
On va essayer de participer à cette tâche-là.
Monsieur Tavernier, vous avez choisi 3 questions. Vous avez choisi la 2, la 5 et la 4. Voici la 2, voici la première question.
Monsieur Tavernier, allez-vous vous présenter aux prochaines élections municipales en 2020 ?
Très clairement, oui. Et pourquoi je peux l'affirmer ? C'est parce que mon groupe politique Initiative franciscaine, qui existe depuis 2010, donc nous ne sommes pas très vieux, lors d'une assemblée générale, m'a désigné comme tête de liste, porte-drapeau du mouvement pour les prochaines municipales. Donc c'est oui, c'est affirmatif et nous sommes déjà au travail.
Vous en serez à combien de candidatures ?
Ce sera ma deuxième au municipal. La première a été 2014 et la deuxième sera 2020.
Avec l'ambition de gagner ?
Forcément, et la conviction même, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà marqué le terrain en 2014. Il y a eu dans le pays des gens qui étaient particulièrement étonnés, mais pas les franciscains en tout cas, du score que nous avons réalisé. Et avec cette, si vous voulez, avec cet apport déjà, avec ce
matelas de voix.
Oui, mais vous savez que c'est la connaissance des franciscains, voilà, qui ont,
après. Est-ce que vous avez régulièrement augmenté vos scores ?
Oui, parce que en fait, avant les municipales, nous étions au cantonal. Et voilà, j'ai participé au cantonal du temps de l'ex-conseil général. Et effectivement, la progression est fulgurante. Elle est fulgurante parce que vous savez que sur le canton, vous vous mesurez seulement à une partie, vous intéressez qu'à une partie du territoire. Et là, effectivement, au municipal de 2014, c'était la première fois qu'on était confronté à l'ensemble du territoire franciscain. Et nous avons réalisé 3 800 voix, près de 4000 voix, à 800 voix du sénateur maire, et qui, voilà, et c'était quand même une progression très intéressante, mais les franciscains, par au-delà ce score et par notre implication dans la vie franciscaine, ont appris à mieux nous connaître. Et aujourd'hui, 4 ans après, et même ça va faire 6 ans, en 2020, eh bien, je pense que là, avec eh bien, ce score réalisé, avec l'implication sur le terrain, avec nos actions, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que la victoire ne pourra nous échapper.
Comment jeunes sportifs franciscains en arrivent à la politique? Qu'est-ce qui vous y amène?
Alors, c'est vrai que, Ignace, vous me connaissez, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et je suis très heureux d'ailleurs que vous m'invitiez aujourd'hui. Vous m'avez connu effectivement dans ce domaine sportif et tout ça, et même les émissions que j'animais sur Radio Caraïbes, performance et tout ça, c'était vraiment mon domaine, le domaine du sport. Mais je n'étais pas que sportif. Et c'est vrai que, en plus de cela, j'avais ce côté militant de ma commune. J'avais un côté militant, et je l'ai toujours d'ailleurs, où très jeune, j'ai participé à plein d'activités culturelles. J'ai mis en place des associations qui sont toujours là aujourd'hui. Je suis encore président du foyer rural du Mont-Acajou, un foyer rural qui fonctionne comme un véritable centre culturel franciscain. Et depuis longtemps, donc, je suis dans ma ville, aux côtés de toutes les générations, ce qui fait que naturellement, parce que vous imaginez que lorsque vous commencez, vous montez une association à 23 ans, vous n'imaginez pas un jour que vous serez candidat à une élection municipale. Vous le faites parce que vous vous engagez, vous vous mobilisez pour votre commune. Et donc au fil de ces investissements, la population voit en vous quelqu'un qui effectivement aime sa ville, aime les gens, prend des initiatives, réussit le plus souvent ce qu'il fait. Et ils finissent par se dire, ah ben tiens, ça pourrait être quelqu'un d'intéressant pour gérer notre ville.
Quel est le périmètre d'action d'un foyer rural?
Alors, c'est vrai qu'il est réduit. Il est restreint si on regarde le fonctionnement des foyers rural en Martinique. Mais nous avons démontré au Mont-Acajou qu'il peut être extrêmement large. Et que ce n'est pas le fait d'être voilà, un peu reculé, un peu reclus dans un quartier qui fait que eh bien, l'activité ne puisse pas atteindre plus amplement, plus largement l'ensemble du territoire. Nous avons des activités aujourd'hui qui sont reconnues, qui sont mémorables, et nous accueillons régulièrement 300, 400 personnes, mais qui viennent de toutes les communes de Martinique. Donc on ne peut pas parler vraiment d'une limitation dans le champ d'action. Il suffit d'avoir effectivement l'imagination et faire des propositions qui intéressent les Martiniquais et y répondent.
Qu'est-ce qui vous rattache le plus au François?
Eh bien le François, c'est une commune que j'aime, j'y suis né. C'est pas le cas de tout le monde. J'y suis né dans mon quartier du Mont-Acajou, au François. J'y grandis là-bas. Et je me suis investi dans cette commune. Alors, la commune est attachante. Elle est attachante parce que lorsque vous connaissez les gens, lorsque voilà, vous les fréquentez, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a une manière de vivre. Il y a une manière un peu différente. Je ne pourrais pas la qualifier ou la distinguer par rapport à d'autres, mais lorsque vous la vivez, il y a quelque chose de particulier qui se dégage. Il y a des amitiés fortes. Il y a des gens qui croient en vous. Il y a des gens qui vous poussent.
Il existe une âme franciscaine?
Il y a une âme franciscaine, mais qui a disparu, justement. Alors, c'est ça mon problème aujourd'hui, le problème de beaucoup de franciscains. Cette flamme, cette âme franciscaine, elle s'est éteinte, cette flamme. Et aujourd'hui...
Vous allez me dire que c'est la faute à M. Antiste et son équipe.
Je pense qu'ils y ont contribué. Ils y ont contribué et qu'il y avait de quoi faire pour la maintenir toujours en vie, cette flamme.
Il a manqué de quoi, alors?
Il a manqué de beaucoup de choses, de cohésion. De cohésion. Ça veut dire que aujourd'hui, le peuple franciscain, je le sens un peu divisé sur beaucoup de choses, parce que le MPF a installé effectivement cette division, sûrement pour mieux régner, mais en tout cas, ça a divisé beaucoup de personnes. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne me disent pas bonjour, mais pour la simple raison que je suis en politique, pour la simple raison que je ne suis pas dans leur camp. Et ça, ça n'existait pas auparavant. Donc vraiment, ils ont créé un peu de désordre et je pense qu'il est temps de rétablir tout ça. Il faut que les franciscains se rassemblent, se retrouvent. Il faut qu'ils se retrouvent comme lorsque le club franciscain joue et que tous nous sommes derrière les Vérinois. C'est un petit peu cette âme-là que je recherche parce que à partir de cela, une fois qu'elle sera là, vous n'imaginez pas le nombre de choses que nous pourrons faire ensemble. Parce que si on est divisé, si on se critique les uns les autres, on s'invective, on ne trouvera pas effectivement l'harmonie, le ciment pour pouvoir aller plus loin. Et je pense que la cohésion franciscaine, à tous les niveaux, est un élément fondamental pour demain.
Samuel Tavernier, il existe en Martinique un échiquier politique. Où vous situez-vous dans cet échiquier ? Alors, droite, gauche, centre, où êtes-vous ?
Alors moi, je suis un homme de gauche. Ça, c'est très clair.
Mais M. Antis aussi.
Oui, on peut être de gauche. Il y a des gauches extrémistes, il y a des gauches plus centraux, il y a des gauches un peu de droite.
Alors, vous êtes au centre, à droite, à gauche.
Moi, je suis un homme de gauche et je me revendique de ceux du camp de la responsabilité martiniquaise. Voilà. Et quand je dis ça, eh bien, je mets un périmètre.
Vous êtes proche du MIM.
Je suis proche du MIM. Qui revendique la responsabilité martiniquaise. Je suis proche de Marcelin Nadeau, qui revendique la responsabilité martiniquaise. Je suis proche de Edmond Mariette, Philippe, qui revendique également. Donc, mon camp, c'est ce camp-là. Et quand j'entends certains dire que, voilà, qu'on ne sait pas où je suis, je leur dis, regardez vers ce camp-là, et vous verrez que j'y suis. Alors maintenant, il y a différents petits courants qu'on peut suivre un jour ou un autre. Tout dépend des projets qui sont proposés. Et donc voilà, donc je suis très bien avec mon groupe dans ce courant-là. Et au gré du temps, au gré des propositions, au gré des échéances, selon notre propre conviction au sein du groupe, eh bien nous faisons alliance ou bien nous soutenons telle ou telle cause. Mais nous sommes toujours dans le même camp.
Qu'est-ce qui fondamentalement vous différencie du MPF ?
La première chose, c'est qu'ils ont fait le choix de s'allier à Ensemble pour une Martinique, Ensemble pour une Martinique nouvelle. Ça, c'est une différence fondamentale. Elle est fondamentale. Je ne pourrais pas faire ce choix-là. C'est très clair. Deuxièmement, le MPF au niveau du François a démontré qu'il y avait effectivement beaucoup d'opportunisme dans sa démarche. Je ne suis pas dans ce schéma-là. De l'opportunisme, je l'ai bien dit parce que...
Monsieur Antiste, qui était ici la semaine dernière à votre place, dit que vous êtes particulièrement violent, verbalement, s'entend.
Alors justement, c'est à vous de juger, nous sommes depuis un petit moment ensemble, Ignace, je ne sais pas si c'est l'impression qui se dégage. Par contre, je rigole, vous savez pourquoi je rigole ? Parce que nous avons écouté avec un groupe d'amis l'émission... à laquelle M. Maurice Antiste était invité, et nous avons beaucoup rigolé. Nous avons beaucoup rigolé.
Qu'est-ce qu'il y avait de comique ?
Non pas justement ses propos, parce qu'il était particulièrement violent, mais c'est votre émoi à vous. Votre émoi à vous.
À quel moment ?
Réécoutez l'enregistrement et vous le verrez. Et, parce que justement, vous avez senti qu'il y avait un flot de violence qui s'abattait dans l'émission. Et je pense justement que votre émission n'a pas été respectée à ce niveau-là. C'est un flot de vomi, un flot de boue, un flot de haine qui ont été déversés. Et pourquoi nous avons rigolé ? Parce qu'on se dit, mais tiens, Ignace découvre enfin l'homme. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas ces moments-là, et Salon Privé est un excellent moment où vous pouvez effectivement, vous avez 2 heures pour voir votre invité, s'il n'y a pas ces moments-là, vous avez du mal à découvrir. Eh bien, vous avez découvert, Ignace, ce que nous, au François, les franciscains, on découvre depuis 30 ans. Cette violence verbale qu'on a entendue dans votre émission, les franciscains la subissent depuis plus de 30 ans. Et pour preuve, et vous savez très bien que M. Maurice Antiste a une radio, François. Il suffit d'écouter le samedi pour s'en rendre compte. Et ce sont ses propres amis, d'ailleurs, qui ont fait les frais. Les Paul Alcindor, les Victor Gredin, les Christiane Boras. Je peux vous dire qu'ils en ont pris. C'est du décalage, mais avec une violence extraordinaire. Et ça va tellement loin que ça peut aller jusqu'à des idées de meurtre. Je vous le dis
Monsieur Tavernier, quand même.
Je vous le dis parce que, avant de partir, Ignace, je vous ferai écouter un enregistrement où, du mois de décembre, où monsieur Antis sur sa radio, eh bien, il dit carrément qu'il souhaiterait me voir pendu à un arbre. L'enregistrement est là, je vous le donnerai. C'est pour vous dire que souvent ceux qui accusent les autres d'être violents et tout ça, c'est une description parfaite de leur propre personne qu'ils ont fait. Et en écoutant ce monsieur dernièrement, j'ai trouvé qu'il se décrivait parfaitement en voulant m'accuser ou me rabaisser. Donc voilà, je suis tout à fait à l'aise sur ça. Nous avons fait une campagne en 2014 extrêmement respectueuse, extrêmement digne. Et pourtant, nous avions des éléments qu'on aurait pu produire, comme le font régulièrement ces messieurs. Mais j'ai demandé à mon équipe de ne rien faire. J'ai été bousculé, j'ai été critiqué dans mon équipe, mais ils ont tenu bon, parce que la politique, pour moi, c'est un débat d'idées. Et tant qu'on sort de là, tant qu'on va dans les caniveaux au niveau de la bassesse, ce que j'ai entendu dernièrement, personnellement, je ne peux pas. Et moi, ce que je souhaite, c'est élever le débat. Et je pense qu'avec des adversaires comme ça, pour l'élever, sincèrement, il ne faut surtout... On n'a même pas beaucoup d'élan à prendre, parce que franchement, c'est inconcevable.
Êtes-vous indépendantiste, monsieur Tavernier ?
Je ne suis pas indépendantiste. Et d'ailleurs, si je l'étais, je vous dis franchement, j'ai eu pas mal de propositions de rejoindre le MIM à plusieurs moments, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai toujours considéré que c'était pas que nous avions raté le coche à un moment donné et que la mondialisation avait pris le pas et que les mentalités avaient changé, avaient évolué. Et que nous ne pouvions pas soutenir encore cette idée, surtout avec le développement de ce pays, Martinique, qui n'offre pas effectivement toutes les conditions de survie, si jamais nous tombons dans un tel statut. Donc, il faut être pragmatique. Et moi, je l'ai toujours été. C'est vrai que dans mes jeunes années, j'étais au lycée, j'ai fait des grèves, j'étais pour l'indépendance. Hein, je me suis battu auprès de beaucoup d'amis pour cela. Mais effectivement, lorsque le moment est arrivé, lorsque effectivement les années 70 sont passées, 80, je me suis rendu compte que, avec surtout le moratoire de Césaire, on s'est rendu compte que on avait perdu une manche, on avait perdu la bataille et qu'il fallait sûrement attendre un meilleur moment.
Indépendantiste, pensez-vous qu'au MIM, on le soit ?
Je l'ai longtemps cru. Je pense qu'il y a encore des hommes et des femmes qui y croient, mais je pense que globalement...
Ça n'est pas la ligne.
Ouais, globalement, je pense qu'on s'est un petit peu rangé. On refuse de parler une nouvelle fois de moratoire pour ne pas ressembler aux autres, mais ça y ressemble fortement. Mais je pense qu'il y a derrière toute une... Voilà, on regarde le développement du pays, on regarde comment les choses se passent. Et moi, je ne suis pas content de ce développement qui n'est pas là pour nous amener demain une indépendance ou une autonomie. Au contraire, c'est nous sommes toujours dans une économie de comptoir. Et c'est difficile de s'en débarrasser. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut se battre sur autre chose.
En tant qu'homme politique, vous êtes certainement un observateur averti. Êtes-vous satisfait de la gouvernance de la CTM ?
Satisfait, non. Mais je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Très sincèrement. Très sincèrement. Parce que j'ai vu point la difficulté lorsque l'idée est venue de rapprocher les deux collectivités. Alors certains partaient en disant voilà, ça va faire 1 plus 1, et moi j'ai toujours dit, ce 1 plus 1 ne fera pas 2, mais ça fera 1 et demi. ou bien un quart, ou bien un, voilà. Et, parce que, en fait, l'idée de fusionner des collectivités, lorsqu'elle vient effectivement du gouvernement, lorsqu'elle est accompagnée par le gouvernement comme ça a été fait, forcément il y a derrière des idées d'économie d'échelle. On recherche effectivement à fédérer, à mutualiser, et donc c'est pas à ce niveau-là qu'on va dépenser un peu plus. Donc résultat, au niveau budgétaire, au niveau, je savais que la collectivité, la CTM, se serait confrontée à des difficultés majeures. Ça, je le savais, et ça n'a pas raté.
Vous souhaitez être candidat aux prochaines élections pour la CTM ?
Ce n'est pas pour l'instant mon choix. Je me consacre uniquement pour l'instant au François, à la mairie du François. Donc la CTM, on verra après ce qui peut être fait. Mais pour l'instant, vraiment, ma priorité, c'est le François. Parce que le François...
On va y venir tout à l'heure. On va parler largement du François. Voilà. Je vous propose qu'on nous fassions déjà une pause musicale. Mais... Dans quel genre musical aimeriez-vous cette pause-là ?
Alors moi, je suis très attaché à des groupes comme Malavoie, Falfret. J'aime beaucoup Kali également. Vous savez pourquoi ? Parce que Kali a fait des chansons qui sont tellement actuelles. Toujours aujourd'hui, donc ça fait 30 ans qu'il les a faites.
Et puis on lui fête un joyeux anniversaire, c'est 60 ans, enfin très bientôt.
Très bientôt, et bien voilà,
joyeux anniversaire. Alors on va écouter Kali alors.
Très bien.
La peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, doit être moi. Enchanté, l'amour. Chez moi, j'ai cassé. Racine la peine en tête, moi. L'eau, qu'a monté dans les moi. Enchanté, l'amour. Vini, mon bout doit être moins. S'il faut moins chanter, plairait en gré, plairait. Maman et Kamo, nous qu'a fait Wam, Pawayo, ni mon qu'a souffert, ni d'autres qu'a prendre yo. Racine la vie en tête, moi. La musique en bout doit être moi. C'est en vous l'espoir. À dans chez moi, s'il faut moins chanter, ouais, crier c'est crier.
Vous êtes dans salon privé, nous sommes lundi soir. Nous sommes en compagnie de M. Samuel Tavernier jusqu'à 23h. M. Tavernier, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. M. Tavernier, Le François, qu'est-ce qui ne va pas au François pour que vous soyez candidat? Parce que si vous êtes candidat, c'est que vous n'êtes pas satisfait de ce qui est fait ou de ce qui a été fait.
Tout à fait. Et je ne suis pas le seul.
Alors, j'ai une autre question et vous allez y répondre après. Est-ce que pour vous, un rapprochement avec Karine Mousseau est possible?
D'accord. Alors, on commence par la première. D'accord. Non, le François, comme je vous l'ai dit, une commune magnifique qui a un potentiel remarquable, 37 kilomètres de littoral, qui a des, un côté terre, un côté mer, une commune de 53 kilomètres carrés, donc vraiment qui a un potentiel extraordinaire. Et aujourd'hui, ce potentiel n'est pas mis en œuvre.
Qu'est-ce qui n'a pas été fait?
Je pense que... qu'il y avait des chantiers prioritaires, mais qui demandaient effectivement un certain nombre d'années pour les réaliser. Et pas une seule mandature, pas deux, sûrement trois, mais il fallait commencer par le faire. Mais comme nous avons eu une équipe qui était basée sur le côté électoraliste, donc il n'était pas question de s'attaquer à de tels projets. Moi, je prends un projet très important qui me tient à cœur. C'est la mise hors d'eau du Bourg de François.
Monsieur Antiste m'a dit que c'était fait.
Alors là, et j'ai bien entendu quand vous lui avez dit, mais écoutez, mais le 16 avril, il y a eu quand même des inondations. Et j'ai entendu qu'il vous a dit que ce sont les maisons qui sont allées à la mer. Je pense que les habitants du François, du bas du Bourg, de Eucalyptus, de la Martienne seront heureux d'entendre une telle remarque.
Vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie?
Mais non, pas du tout. C'est parce que l'essentiel n'est pas fait. Vous savez que j'ai retrouvé dans les budgets communaux une prévision faite par le MPF de 8 millions d'euros pour la mise hors d'eau du François. Ça veut dire que je considère que lorsqu'une municipalité prévoit une telle somme, ça veut dire qu'elle est consciente effectivement de l'enjeu. Et la réalisation, 290 000 euros. Vous voyez que c'est vraiment très faible, c'est même inexistant. Et en termes de réalisation, les seuls travaux qui ont été faits pour la mise hors d'eau du François, ce sont ceux qui ont été réalisés par le Conseil général juste après l'élection de M. Maurice Antiste. Le pont qui mène au stade du François a été l'œuvre du Conseil général. Vous voyez ? Donc, le MPF n'a jamais pris à bras le corps la sécurité des franciscains. Et je leur en veux pour ça, parce que nous savons très bien la position, le positionnement géographique de notre commune. Nous savons que il y a beaucoup si demain il y a un tsunami, si demain voilà, il y a des prévisions déjà qui sont faites par M. Safache notamment, qui prévoient effectivement mais quelque chose de catastrophique. Et face à ça, eh bien on est là, on ne fait rien, on ne dit rien, on fait autre chose qu'on appelle priorité. Et puis la sécurité des franciscains n'est pas assurée, ce n'est pas normal. Et moi, ce que je souhaite, avec l'équipe qui m'entoure, mais les franciscains le souhaitent aussi, c'est que ce chantier-là soit abordé dans les plus brefs délais. Qu'il s'étale sur 8 ans, sur 10 ans, mais il faut le commencer et il faut le prendre à bras le corps.
Quelle serait votre première priorité si vous étiez élu maire du François?
Les franciscains. Vous savez, Ignace...
Ils sont en souffrance?
Ils sont en souffrance. Pour beaucoup d'entre eux. Il y en a qui sont bien. Mais quand je parcours les quartiers du François, je peux vous dire que je suis estomaqué. Je vois des choses qui ne devraient pas exister.
Vous voyez quoi?
Je vous prends un seul exemple. Nous étions dans un quartier, je ne vais pas le citer pour ne pas trop... mercredi dernier. Et nous allons voir une dame, et quand nous regardons cette dame, la maison de cette dame, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Elle n'a pas les moyens de se les payer. La maison a commencé à la faire, mais elle n'est pas terminée. Elle a un lit, sa chambre dans une pièce, elle a un lit à étage. Et elle nous dit, vous voyez, je dors à l'étage. Et on lui demande pourquoi. Elle nous dit, mais vous savez que là où je vis était festé de serpents. Et pour me protéger, eh bien, la nuit, voilà, je dors sur ce lit, je dors à l'étage. Je vous raconte ça parce que c'est le dernier cas, mais il y a des choses terribles. Rappelez-vous, Ignace, vous avez vu sûrement les images sur la TV de cette dame qui était pratiquement au fond d'un trou au François, qu'on est allé sortir, qui dépérissait entre les rats et les ordures, et que nous sommes allés sortir. Et malgré tous les appels que nous avions déjà faits au niveau de la mairie du François, au niveau de l'ex-conseil général, les réponses n'étaient pas arrivées, n'étaient pas venues. Et donc, il a fallu qu'on fasse monter la télévision, pour venir filmer tout cela. Ça a provoqué un choc dans le pays, ça je le sais. Mais voilà, des actions comme ça que nous faisons.
Du social alors ?
On fait beaucoup de social, parce qu'il y a du social à faire. Il y a des habitants qui n'ont pas les moyens, des retraites minimes, vous connaissez la situation, de joindre les deux bouts, et ils n'ont personne pour les guider, ils ne sont pas accompagnés, pas soutenus, et ces personnes sont là, sont livrées à elles-mêmes. Et je peux vous dire que je rencontre des dizaines et des dizaines. Eh bien voilà, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu poussé à faire de la politique, parce que j'aime trop mes compatriotes, j'aime trop l'autre, pour ne pas pouvoir intervenir dans telle situation.
Madame Mousseau et Monsieur Antiste sont d'accord sur le fait que le François est une commune potentiellement touristique, mais où il reste encore beaucoup à faire dans le domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux-là ?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous voyez que moi, je m'attache d'abord aux gens. C'est très important pour moi, à leurs conditions de vie. Et la politique que nous menons, que nous voulons mener au François, est une politique plutôt sociale. Même si nous sommes effectivement interpellés sur d'autres aspects. Et l'aspect touristique en est un.
Qu'est-ce qui n'a pas été fait ?
Il n'y a pas eu, à mon sens, de prise d'initiative de l'équipe depuis 25 ans sur l'exploitation de ce potentiel. Au François, les élus du MPF ont laissé faire les privés. Et aujourd'hui, eh bien, sur 300 personnes qui viennent au François, il y en a 280 qui vont à l'habitation Clément, qui vont sur les îlets, à l'île Oscar. Mais combien, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la commune pour pouvoir les retenir ? Alors, financièrement, parce que vous savez que je suis dans la gestion, on va en reparler. J'ai toujours dit que nous passions là d'une manne financière très intéressante. Ils n'ont pas réussi à coordonner l'économie touristique dans la ville. Ils l'ont carrément laissé.
Peut-être aurait-il eu besoin de vous, monsieur Lafernier, ou monsieur vous.
Mais oui, mais j'étais là, mais vous savez que les divergences politiques font que, bon, on n'est pas toujours ensemble. Et on n'est pas toujours écoutés, malheureusement. Mais, notamment la taxe de séjour est un élément que j'ai proposé depuis bien longtemps, en arrivant au conseil municipal, parce que je suis dans l'opposition du conseil municipal.
Nous siégeons
tous les jours. Et donc, j'ai proposé qu'on la mette en place. Eh bien, ils ont tellement attendu que finalement, la compétence touristique est passée à l'Espace Sud et aujourd'hui, c'est l'Espace Sud qui récolte les recettes. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas eu cette prise d'initiative, il y a eu cet immobilisme, il n'y a pas eu cet esprit de cohésion parce que je pense que sincèrement, s'ils avaient réussi, et c'est ce qu'on fera lorsqu'on viendra, on va tenter de le faire. Il faut coordonner l'activité touristique sur la ville. Il n'est pas question que les privés en bénéficient et que la ville non. Alors que nous avons effectivement des choses, nous avons la Yole, nous avons la Hautaille, nous sommes le berceau de la Hautaille. Comment pouvez-vous m'expliquer, Ignace, qu'un touriste vienne et ne danse pas un petit pas de Hautaille avant de repartir chez lui ? C'est inconcevable pour moi. Donc, il y a à coordonner tout ça avec les privés, ça va être difficile. Parce que lorsqu'ils ont déjà pris effectivement leur ascendance et que se sont débrouillés pendant des années tout seuls, aujourd'hui venir leur proposer un partenariat, ça peut être difficile. Mais on verra dans quelle mesure ça peut être fait, de manière à ce que la commune du François, la ville, les franciscains en bénéficient.
Qu'est-ce qui n'a pas été valorisé, que vous valoriseriez?
Par exemple, ces atouts-là, je vous parle de la Yole, je vous parle de la Haute-Taille,
des sites,
je, vous parle du port de plaisance du François, je vous parle de certains points de vue qui sont magnifiques au François, qui n'ont pas été valorisés. Par exemple, et avec seulement ça, et puis aussi l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions entrer l'agriculture dans le champ de l'économie touristique. Ça veut dire que ne pas considérer que, voilà, que nous sommes dans un chapitre de production, voilà, de vente, de production, il y a effectivement à accueillir des touristes dans des fermes, voilà, et faire de l'agrotourisme. Et ça, il faut le développer. Ce n'est pas développé chez nous. Alors que nous avons effectivement des agriculteurs merveilleux, François, qui font un travail remarquable. Mais ce serait effectivement important de les mêler à cette économie touristique de manière effectivement à ce qu'ils bénéficient également. Le port de plaisance. Le port de plaisance du François.
Madame Mousseau commencerait par ça.
Oui. Elle commencerait par ça, c'est bien. Ça ne m'étonne pas. Vous savez que Madame Mousseau...
C'est sa compétence.
C'est sa compétence touristique. Voilà. Donc elle y pense forcément. Le port du plaisant. Mais je pense qu'avant qu'elle commence par ça, il faudrait qu'elle sache très bien l'histoire de ce port de plaisance-là. Et je vais prendre quelques minutes, si vous voulez, pour en parler. L'équipe municipale, donc en place, a fait le choix, en 2011, de privatiser ce port de plaisance-là. La privatisation en elle-même ne me dérange pas. Lorsqu'on n'est pas compétent, technicien, voilà, pour mener à bien un chantier, on le confie à ceux qui savent le faire. Et c'est l'entreprise, la SAEP du Marin, le port de plaisance du Marin, qui a répondu à l'appel d'offres, parce qu'il y a une appel d'offres et tout ça. 2011, cahier des charges établi très soigneusement, avec vraiment un projet très ambitieux, sur lequel j'avais quelques doutes à certains niveaux, mais sur l'ensemble du projet même, ça m'intéressait effectivement qu'il y ait ce développement au niveau de la baie du François. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 4 ans, absolument rien n'a été fait sur le port, malgré un contrat conclu avec des clauses bien particulières. Rien n'a bougé. La seule chose qui a bougé, c'est que les recettes payées par les plaisanciers arrivaient non plus dans les poches de la commune, mais dans celles de la société du Marin, sans qu'il y ait en face un investissement qui soit fait. En arrivant au conseil municipal en 2014, nous avons dénoncé cet état de fait en disant que ce n'était pas normal que les franciscains soient privés d'une recette au profit de privés qui, de plus, n'arrivait pas à conclure son contrat. Et qu'est-ce qui se passe en 2014? Histoire familiale, peut-être, et entre les Jean-Joseph, Glenn prend son indépendance et l'affaire se règle chez eux en disant, voilà, toi tu prends le port du François, toi tu prends par là. Voilà. Finalement, Glenn a hérité de ce port. Alors je dis hérité parce que c'est un petit peu le choix qui a été fait dans la famille, mais il fallait que derrière qu'il y ait une approbation du conseil, une validation du conseil municipal du François. Et lors de ce conseil municipal où on était présent, parce qu'on venait d'être élu, nous avons insisté pour dire 2 choses. La première, c'est que le contrat avec la société du Marin n'ayant pas avancé, c'était le moyen de l'annuler. C'était le bon moyen parce qu'on avait toutes les raisons pour le faire. Rien n'avait bougé sur le port et tout ça. Et nous leur avons proposé, nous leur avons dit, vous l'annulez. Et puis, vous repartez sur un nouvel appel d'offres, même si la même société revient. Et profitez justement de cela pour revoir un petit peu les petites choses qui avaient été faites, mal faites au départ. Revoyez le périmètre, notamment. Parce que dans la première partie, le port serait tellement envahissant que nous n'aurions pu même pas accueillir une arrivée de tour de yole, par exemple.
Qu'est-ce qu'il y avait de prévu, là?
Il y avait une capitainerie avec pas mal de boutiques, il y avait des quais, il y avait il y avait pas mal d'installations.
Et là, vous me parlez de 2014. Nous sommes en 2018, nous sommes en 2019. Oui. Rien n'a toujours bougé.
Exactement, voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le conseil municipal, malgré notre opposition, surtout quand nous disions que l'entreprise de Glenn, Jean-Joseph, était toute nouvelle. Elle avait 3 mois d'existence. Elle n'avait pas de référence technique, de référence financière. Même si Glenn, on le connaît, c'est un spécialiste. Mmh. Mais n'empêche que derrière, sa société, effectivement, n'avait pas les reins solides pour accueillir un tel projet. Malgré tout ça, eh bien, le projet a été transféré à Glenn Jean-Joseph. Et aujourd'hui toujours, 5 ans après, rien n'a bougé. Toujours le fait que, eh bien, chaque année, 300 000 euros de recettes des plaisanciers arrivent donc dans les poches d'un privé, que je ne critique pas, hein, parce que j'ai lu un courrier dernièrement, ils sont embêtés parce que il y a effectivement des contraintes administratives qui les bloquent, notamment au niveau de la DEAL, mais j'ai cru comprendre également qu'ils se plaignent de manque d'accompagnement sérieux et de soutien de la municipalité du François. Donc, ils sont embourbés, tout le monde est embourbé, et la vie continue. Ça ne gêne pas le MPF que 300 000 euros régulièrement chaque année tombent dans la poche d'un privé sans qu'aucun investissement ne soit fait. Donc voilà l'histoire du port de Plaisance. Et vous comprenez bien que ça m'intéresse. Ça intéresse mon groupe politique. Nous en avons parlé. Et nous disons très clairement la chose suivante. Lorsque nous serons...
Vous dénoncez le contrat ?
On va bien regarder avant de le faire. On va bien regarder qu'est-ce qui ne va pas. Si il faut faire avancer, pousser, on poussera tout ce qu'on pourra pousser. Si on se rend compte que les choses ne peuvent pas se faire, eh bien, à ce moment-là, on dénoncera le contrat et la ville reprendra la gestion de sa petite marina. Et nous allons effectivement faire le travail qu'il y a à faire au sein de la municipalité. Et les recettes qui seront dégagées seront des recettes qui viendront abonder le budget communal.
Vous avez les compétences pour ça?
Oui, mais justement. Mais c'est ce type de projection qu'il faut faire. Ça veut dire que lorsqu'on aspire à être maire d'une commune, ou à une équipe aspire à prendre les rênes, s'il n'y a pas ces calculs, ces extrapolations, ces possibilités, s'il n'y a pas ces études qui sont faites bien avant, pour pouvoir effectivement... voir comment on pourra se débrouiller, comment on pourra alimenter ce budget municipal qui est en situation un peu dégradée. Il faut trouver des solutions. Et celle-là en est une. Et vous savez pourquoi on va le faire? Parce que dans le contrat, il était prévu que la société qui gère le port reverse à la ville 4% de son chiffre d'affaires. Alors, la projection qu'il avait faite, c'est que normalement, là, en 2019, 8 ans après la signature du contrat, on devrait être déjà à 1 million de chiffre d'affaires. Vous imaginez, 4%, là, j'étais tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, vous savez combien le port reverse à la ville de François? 9 000 euros. 9 000 euros par an, chaque année, à la ville. Donc, on est loin, très loin des prévisions. Et on ne peut pas laisser perdurer une telle situation éternellement. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc, nous irons sur ce chantier-là, non pas la fleur au fusil, comme certains qui pensent que tout peut se faire, mais d'abord débloquer la situation actuelle. Il faut la débloquer. Et je le dis, je n'en veux surtout pas, il faut qu'ils le sachent, à ceux qui gèrent le port, aujourd'hui.
Madame Mousseau, on a fait quoi?
Pardon?
Madame Mousseau, j'ai dit, on en fait quoi?
À quel niveau?
Une alliance avec elle?
Ah, on revient à la question. Non, alors.
La question, je vous ai posé une question, ça fait un quart d'heure.
Vous savez que tout est possible en politique. Tout est possible en politique. Mais je pense que Madame Mousseau défend une ligne politique.
Mais dans votre camp, on a l'habitude de ce genre d'alliance.
Nous ne sommes pas allés jusque-là.
Non, je ne parle pas de votre camp franciscains, oui, mais du camp dont vous dites être proche. Les autres.
Non, mais je vous dis sincèrement, je ne suis pas contre. Oui. Et vous savez pourquoi je ne suis pas contre? Parce qu'au niveau des municipales, nous ne sommes pas dans le même schéma. C'est une élection unique. Elle est particulière. Et à mon niveau, tous les franciscains, je dis bien tous les franciscains, de quel bord politique qu'ils soient, s'ils ont envie de travailler pour leur commune, s'ils ont envie de se battre pour le François, pour sortir le François de là où il est aujourd'hui, eh bien, je les accueille à bras ouverts.
C'est une candidate dangereuse ? Enfin, je dis dangereuse, c'est pas le bon mot. C'est une candidate sérieuse.
Je pense qu'il faut prendre au sérieux chaque candidat. Hein. Moi, j'ai entendu des propos sexistes de la part de M. Antiste sur vos ondes dernièrement. Tout cela à des aspects de séduction. Moi, j'ai trouvé ça un peu sexiste. Non, je pense que c'est un débat d'idées. Dès qu'on porte la parole publique, eh bien, on a sa place dans le débat. Et il faut prendre tous les candidats au sérieux. S'ils viennent, c'est parce que forcément, eh bien, ils ont envie de défendre des valeurs. Voilà, ils ont envie de faire des choses. Donc, il faut les prendre au sérieux.
Vous pensez quoi de ce travail dans le tourisme ?
Je regarde. Je vois qu'elle a pris le relais de Karine Wakami et que son objectif, c'est plus de ne pas d'essayer d'égaler, peut-être de maintenir le tourisme. Vous savez, lorsqu'on prend à bras le corps ce pan de l'économie, je suppose que forcément on a des envies de le porter. Maintenant, est-ce qu'elle a la capacité d'aller plus loin? Est-ce qu'elle peut le faire? C'est son travail qui va décider. Aujourd'hui, nous regardons, le tourisme représente quand même le pan.
Vous pensez que sa position la favorise au François, que ça a fait monter sa cote de popularité?
Je pense qu'elle a été beaucoup plus médiatisée. Mais uniquement ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, elle a participé à une élection législative dernièrement. C'est là que se mesurent les cotes. Hein. Vous savez, c'est dans les urnes, dans les élections. Donc, elle est médiatisée, mais il faut voir si ça se traduira dans les urnes. Vous savez, pour gagner une élection municipale, il faut être près des gens. Il faut être près des gens. Les gens ont besoin de vous sentir tout près. Les gens ont besoin de savoir que demain matin, eh bien, leur maire sera là. Ils vont appeler et que le maire pourra venir rapidement. On pourra les accompagner. Il y aura une écoute.
C'est compliqué aujourd'hui, le travail de maire, parce que c'est une activité qui est très encadrée maintenant. Vous êtes bien placé pour le savoir.
C'est encadré, mais ça laisse plein de place à plein de choses. En tout cas, si vous voulez, si pour résumer un peu ce que je vous dis sur ça, et puis on pourra en parler encore beaucoup, parce que je suis très bavard sur ces choses-là. Notre objectif à l'initiative franciscaine, dans cette élection qui arrive, qui pour nous est une élection majeure, c'est de mettre un terme à 25 ans de règne de clan familial sur le François. 25 ans de règne qui nous laisse aujourd'hui une ville exsangue, hein, une ville sans âme, une ville fracturée, une ville ruinée. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de Mamousseau, oui, on peut en parler, mais je pense qu'elle défend ses idées. Elle est du groupe LR, les Républicains. Et on voit bien dans son programme les traces. Elle défend son parti. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde, naturellement, qu'elle. Mais notre combat essentiel, c'est de mettre fin à ces 25 ans de règne de clan familial au François. Et pourquoi j'insiste sur le clan familial? C'est parce que l'ex-maire sénateur, c'est le beau-frère du premier adjoint. Le premier adjoint, c'est le père du directeur de cabinet. Ce directeur de cabinet qui sera le prochain candidat aux élections municipales 2020. Vous voyez? Donc, non seulement il y a ce règne de 25 ans.
Livrez-nous son nom, on ne l'a pas.
Alain-Claude Lagier.
D'accord.
Alors, il y aura un simulacre d'élection qui va se dérouler, mais tout le monde sait au fond que comment ça va se terminer. Donc, un clan qui a régné sur la ville pendant 25 ans, qui nous la livre aujourd'hui, comme ça, vide, sans âme.
L'absence de monsieur Antiste à cette élection, vous la voyez comment? Ça vous facilite les choses? Ça va être moins difficile pour vous?
Pas du tout. Vous savez pourquoi? En 2014, si vous vous rappelez bien, Maurice Antiste était nommé sénateur, était élu sénateur 3 ans avant, en 2011. L'église du François, voilà un élément électoraliste majeur, a été construite 2 ans, a été livrée 2 ans avant l'élection. Donc vous comprenez que mon parti Initiative Franciscaine qui arrive au municipal pour la première fois, face à un maire qui vient d'être élu sénateur, face à une église, voilà, un maire qui vient de terminer une église, beaucoup nous pensaient déjà la miner. Et regardez le score que nous avons fait. Nous avons perdu de 800 voix, de 800 voix d'écart au deuxième tour. Nous sommes la première formation politique à l'avoir emmenée au deuxième tour. Vous voyez ? Donc, je vous le dis très clairement, et il le sait, 2020 serait une bataille de trop pour lui. Parce que la dégradation est tellement manifeste. Et nous, notre progression en face, les courbes sont inversées. Forcément, il y a un moment, il y a un effet ciseau, vous voyez. Et je pense que les franciscains l'ont vu partir sans regret. Après 23 ans, rares sont ceux qui regrettent Maurice Antiste à la tête de la mairie du François. Il est parti sans faire le bilan. Moi, je trouve ça un peu inconvenant, parce qu'après 23 ans, quand même, bon, on s'assied, on fait une page, on distribue un courrier aux habitants, voilà. Rien n'a été fait, aucun bilan. Alors, c'est parce qu'il n'avait pas, forcément. Et derrière, un élu qui est en perte de vitesse, qui est en perte de vitesse. Donc, 2020, avec ou sans lui, c'est le même travail que nous faisons.
Malavo ou Falfrit?
Falfrit. Ou trop mal élevé, pas ni pièce, modèle, respect.
Chapelle, pour la vie, mais ne j'ai même pas.